herzlich willkommen in dem teuren.
Soyez tous les bienvenus dans le nom du Seigneur. Vous remarquez, ma voix est encore enrouée, mais la parole du Seigneur reste la même. Et elle produira l'effet pour lequel elle est envoyée. Pour lequel elle est envoyée. Aujourd'hui, je voudrais d'abord tous ceux qui sont ici les saluer. Tous nos amis de la Finlande, de la Suède, de la Danemark, de l'Est et de l'Ouest, jusqu'en Roumanie, et en Italie, jusqu'à Palermo, ensuite la France et toutes les villes voisines, que, pas seulement les villes, mais aussi les pays voisins, que le Seigneur reçoive ce qui lui revient de plein droit ce week-end, et que sa parole produise les faits pour lesquels elle est envoyée. Nous avons encore des salutations de notre ami Adrian de la Roumanie. Il remet des salutations du frère Hervé de Lyon, du frère de Turin, d'un frère de Warschau, du frère Elis Wendel de Edmonton, Canada, et d'un frère de Libreville, du Gabon, et des salutations de Moscou, de l'Oural, de l'Ukraine, des salutations du frère Ngonga, encore des salutations de la porte Elisabeth, encore du Gabon et du Burkina Faso. Et des salutations du frère Kabuya. Il remet des salutations fraternelles. Ensuite, nous avons un frère ici. Il est de la Guadeloupe. Il voudrait remettre des salutations. Où est le frère de la Guadeloupe? Est-il ici? Oui. Tu veux venir saluer, remettre la salutation? Et nous allons aussi demander à notre frère de la Roumanie de remettre des salutations. Le frère Florent est-il ici? Oui. Une salutation. Viens, viens.
Seulement une salutation. Seulement une salutation.
Pardon? You can translate.
Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous transmets les salutations de l'Assemblée de la Guadeloupe. Dirigée par le frère Christus. Frère Charles. Dieu vous bénisse.
Amen. Gott segne euch. Amen. Ja, Grüße aus Rumänien. Komm doch gleich mit. Komm doch gleich mit. Ja.
Vă salut în numele Domnului Iisus.
Ich grüße euch alle in den Namen unseres Herrn Jesus Christus.
Vreau un singur cuvânt din Scriptură care l-am pe inimă, din Evrei capitolul 10.
Je voudrais lire une parole dans Hébreux, chapitre
10.
Que le Seigneur nous bénisse tous.
Verft also eure freudige Zuversicht nicht weg. Sie bringt ja eine hohe Lohnvergeltung mit sich.
N'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et le verset 38, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Amen.
Amen.
Ce n'était pas seulement une salutation de la Roumanie, c'était une salutation du Seigneur. Encore une salutation, encore soyez tous les bienvenus et que la parole de Dieu vraiment produise en nous tous l'effet pour lequel elle a été envoyée. Je pense au mandat que frère Branham a reçu, que le message qui lui a été confié ira dans le monde entier comme précurseur du retour du Christ. Et frère Alfred Bock l'a déjà mentionné, déjà, ce sont 50 années qui sont venues, qui sont passées, et Dieu a pris son messager, mais le message de Dieu, le message divin, nous est resté. Et je devais penser alors que il vit le champ de blé en or et qu'il disait que les véritables croyants sont ce champ de blé et ils doivent et mûrir au soleil, mûrir au soleil. Et ensuite, il disait, alors, la moissonneuse batteuse viendra. La moissonneuse batteuse viendra et la moisson sera récoltée. Et je souris un peu et ensuite vient un jour que le Seigneur a fait. Et frère Frank a été pris de son corps et voit ce champ de blé énorme. Les grains étaient tellement mûrs que la tige était penchée, était même déjà devenue brûlée par le soleil. Et j'ai regardé à ma gauche une moissonneuse batteuse entièrement neuve, jamais utilisée. Et la voix audible de l'Éternel a dit, cette moissonneuse batteuse est à toi. Alors, je suis monté et j'ai donc moissonné. Et alors, la dernière lignée fut ensuite moissonnée. Et c'est à ce moment-là que tout est devenu obscur. Et j'ai été terrifié. Et il y a eu comme un orage, une tempête. Il a commencé à l'étincelle et le tonnerre. Mais la moisson avait été déjà récoltée. Vous pouvez vous imaginer ce que cela signifie pour moi. Que Dieu a ouvert les portes jusqu'aux extrémités de la terre et qu'il a accordé sa grâce pour tous les voyages dans le monde entier. Et que cela soit dit encore, frère Branham parlait de ses voyages missionnaires dans 7 pays et il a exactement 7 fois il a entrepris des voyages missionnaires et il a visité 14 pays Et prêché dans 10 pays. En Angleterre, il a seulement entrepris un voyage pour... Il a visité la tombe d'Alexander Darwin, qui était un grand prédicateur d'évangélisation et de réveil. Il a visité la tombe de John Wesley et il s'est laissé photographier devant la tombe. Il était à Paris rapidement. Il a visité Paris. Il était à Rome. Il devait le mercredi matin avoir une audience avec le pape de Lundberg. Et cela avait été arrangé et préparé. Et on lui a dit, voilà comment est-ce que tu dois te comporter et respecter certaines choses. Et frère Branham a dit, non. Alors là, cette audience ne sera pas possible. Et il n'est pas allé donc à cette audience. Il était à Cairo. Il a fait une escale là-bas pendant un voyage, et car son cœur brûlait pour Israël. Le Seigneur lui a dit, l'heure pour Israël n'est pas encore venue. Alors, quand je pense à toutes ces choses, comment est-ce que Dieu a conduit et a dirigé du premier jour déjà, depuis août 55, et ensuite toutes les différentes années qui ont suivi, et comment est-ce que nous avons eu la grâce d'avoir une part directe à la prédication de la parole de Dieu. Et chaque parole que cet homme de Dieu a prêché m'a été révélée et nous a été révélée tous par le Saint-Esprit. Pas une unique fois nous avons dû donner une interprétation, et ça je le dis simplement pour l'honneur de Dieu. Pas une unique fois nous avons mal compris ce que Dieu a eu à nous dire. Et comme trois fois il est dit, après que le Seigneur ait parlé des paraboles, en parabole, il a demandé à ses disciples, avez-vous compris toutes ces choses? Et tel que hier, nous l'avons dit en insistant, dans l'Ancien Testament, il s'agissait de ne pas seulement apporter des victimes, des holocaustes, et différents, avec leurs différents noms et leurs significations. Il s'agissait que ce qui était apporté, si ça doit être agréable à Dieu, il fallait que ce soit apporté dans la présence de Dieu, selon la volonté de Dieu, à l'entrée de la tente d'assignation. C'est dans ce lieu-là, cela devait être apporté au sacrificateur que le Seigneur avait établi. Et le frère l'a déjà utilisé. Il a déjà mentionné le frère Alfred Bord dans la parole d'introduction. Nous mettons notre confiance dans la grâce qui nous a été accordée. Aller de confession en confession et de religion en religion. Et mentionner simplement quelque chose concernant la révélation de Jésus-Christ. Les gens ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas de quoi nous parlons quand nous parlons de la révélation de Jésus-Christ. Ce qui est devenu précieux pour nous, ce qui signifie tout pour nous, que nous puissions entrer dans, que nous pouvions entrer dans la tente d'assignation, dans le lieu très saint, et entendre les révélations de Dieu et aussi les comprendre. Ça, je voulais presque dire une grande grâce. Mais je dis, c'est la plus grande grâce qui existe sur terre, d'entrer dans la présence même de Dieu, dans la tente même, dans le lieu très saint, et de rencontrer Dieu lui-même et qu'il parle avec nous. Ça, tel que nous l'avons souvent dit, c'est la dernière phase avant le retour de Jésus-Christ. Et la parole du Seigneur, telle qu'au commencement, elle a été prêchée, c'est ainsi que, à la fin, elle sera prêchée. Et nous allons toujours de nouveau le dire. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et celui qui est né de Dieu, il est né de la parole et de l'esprit de la vérité. Et il n'acceptera aucun mensonge et aucune interprétation. Mais il restera dans la parole de la vérité. Et il sera sanctifié, car sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et ce qui est merveilleux, bien mes frères et sœurs, c'est ce qui est écrit et consiste à ce que les prophéties bibliques ont été exprimées, éparpillées dans la Bible. Tout n'est pas écrit dans un seul chapitre. Tout ce qui concerne notre époque n'a pas été prononcé par un seul prophète. Tout est éparpillé dans toutes les Saintes Écritures. Je vous donne maintenant quelques exemples de notre Seigneur et Rédempteur, ce qui le concernait, lui, en tant que roi. Dans Zacharie chapitre 9, au verset 9, il est écrit, « Voici, ton roi vient à toi. » Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Il est écrit dans Matthieu, dans les premiers chapitres, où est le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile au nord. Où est-il? Et ensuite, ils ont été conduits à Bethléem, là où cela devait s'accomplir et là où c'était accompli. Dans Luc chapitre 1, au verset 33, il est écrit, il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Luc 1, verset 33, et le peuple d'Israël, sur le fondement de ces promesses-là, aurait pu accepter. Maintenant, il est né. Maintenant, il établira son règne. Non, il est né pour d'abord donner sa vie avant qu'il puisse ensuite établir son règne et que nous puissions avec lui, nous les racheter. Régner avec lui. C'est pour cette raison que dans Apocalypse, le chapitre 11, au verset 15, il est écrit, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles et à son oint. Tout au temps convenable. Dans Jean 18, verset 17, disait notre Seigneur, oui, je suis un roi. Je suis un roi, je suis né dans le monde pour cela. Tout au temps convenable. Et le temps, la grâce que le Seigneur nous a accordée consiste vraiment à ce que nous puissions reconnaître les prophéties bibliques et que nous puissions les mettre à leur place, là où elles ont leur place. Et nous sommes, tel que dans la parole d'introduction, nous l'avons entendu, nous sommes dans l'attente. Et moi-même, je m'attends au retour de notre bien-aimé Seigneur dans notre temps. Je n'appartiens pas à ceux qui disent « Mon Seigneur ne revient pas ». J'appartiens à ceux qui de tout leur cœur disent « Levez vos têtes, car vous verrez toutes ces choses. Levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Et j'appartiens à ceux qui croient ce que notre Seigneur dans Matthieu 24, verset 14 a dit. Cet évangile du royaume sera prêché, ce message du salut du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et c'est vraiment le dernier appel qui retentit maintenant. Et heureux ceux qui prêtent l'oreille à la voix de l'époux. Ce n'est pas la voix d'un prophète, c'est la voix de l'époux qui parle à son épouse, et seulement l'épouse a une relation intime à l'époux, avec l'époux, et c'est seulement celui qui appartient à l'Église épouse qui prêtera l'oreille à la voix de l'époux, comme dans Matthieu 25, il est écrit, voici l'époux, pas le juge, mais l'époux, dans le contexte, dans la relation avec l'épouse, dans sa relation avec l'épouse. Et dans Apocalypse 21, il est écrit, je te montrerai l'épouse de l'agneau, l'épouse, la femme de l'agneau, oui, dans Apocalypse 19, il est écrit, et son épouse s'est préparée. Qui a la promesse? L'épouse. À qui est-ce qu'on fait un vœu? À une épouse. C'est-à-dire, elle a la promesse, elle a le vœu, elle a la promesse de l'époux. Et il ne le fait pas à toutes les femmes, non. Il fait une promesse à une femme, et cette épouse-là croit. Et les fiançailles ont lieu, et la certitude que le mariage aura lieu. Et là, il y a aussi une incompréhension sur ce que frère Branham, une fois, a dit, qu'il disait, maintenant, l'épouse avec l'époux est unie comme une femme avec son mari. Et de cette citation, ils ont fait une doctrine, un enseignement que le mariage déjà ici sur terre a lieu et que le festin des noces de l'agneau aura lieu au ciel. Je dis simplement avec un cœur brisé, je ne peux pas supporter une seule interprétation. Je ne peux pas supporter. Pour moi, c'est clair. Ce que frère Branham voulait dire, que maintenant cette union a lieu en esprit et que nous sommes apportés en relation, en liaison avec l'époux par sa parole, par l'œuvre accomplie de la rédemption, et nous sommes liés avec lui par son amour et amené à la perfection. Mais si les Saintes Écritures disent et son épouse s'est préparée, alors il peut être aussi écrit et sa femme s'est préparée. Les deux sont justes. Avant le mariage, elle est l'épouse et c'est après le mariage qu'elle est devenue la femme. Mais l'épouse est la femme et la femme est l'épouse. Selon les différentes traductions, on n'a pas besoin ici d'avoir des problèmes là-dessus. Je voudrais le dire clairement. Le Saint-Esprit, lui, il résout tous les problèmes. Le Saint-Esprit, lui, il ne fait aucun problème. Et c'est vraiment ainsi que les traductions de la Bible Il y en a une qui dit réellement femme au même endroit où il est écrit dans les autres traductions épouse. Et ensuite arrivent les problèmes parce que les frères ne sont pas conduits par le Saint-Esprit dans toute la vérité. Et simplement pour comprendre que ce qui était épouse est ensuite, avec le mariage, devenu la femme de l'agneau. Mais c'est la même personne. Nous sommes reconnaissants. Il y a un autre point en ce qui concerne le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce que Dieu, d'une manière surnaturelle, dans le ministère de frère Branham, a fait, n'était pas le retour de Jésus-Christ. C'était la présence surnaturelle du Seigneur qui, dans la nuée et la colonne de feu, est descendu. Quand le Seigneur reviendra, il ne revient pas dans la nuée et la colonne de feu. Il vient en tant que le Seigneur ressuscité, en tant que celui qui a pris ses disciples avec lui jusqu'en Béthanie et en montant au ciel a détendu ses bras pour les bénir. Il reviendra tel qu'il est monté, en tant que le ressuscité, en tant que le victorieux de Golgotha. Pas dans la colonne de feu, pas dans la nuée, dans la nuée, oui, mais en tant que celui duquel nous avons été transformés à son image. Alléluia! C'est merveilleux quand on peut mettre à sa place les manifestations de Dieu. Et ça, c'est naturel de Dieu, et ça, c'est la grâce qu'il nous a accordée. Il y a beaucoup d'incompréhensions, par exemple aussi de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, particulièrement au verset 15, ils disent par exemple que le Seigneur est déjà revenu. Non, 1 Thessaloniciens 4, verset 15, car quand tu reviens, moi je pars. Je ne resterai pas un moment encore sur terre quand le Seigneur reviendra. Lors du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui sommes restés vivants, nous serons ensuite transformés. S'il vous plaît, n'interprétez pas ça spirituellement, mais soyez prêts à ce que, quand cela a lieu, nous soyons aussi enlevés. Tout est spiritualisé, tout est interprété spirituellement. Je le répète encore, Dieu est seulement dans sa parole et seulement dans l'accomplissement direct de ce qu'il a promis. Le Seigneur ne va jamais accomplir une interprétation. Le diable est dans l'interprétation. Aussi particulièrement en ce qui concerne nos frères de la langue anglaise, et ce qu'ils devraient observer, c'est ce qui est écrit dans le psaume 47, verset 6. Les mêmes paroles qui sont écrites dans 1 Thessaloniciens 4, verset 15, qui sont utilisés, sont aussi dans le psaume 47, verset 6. Je lis. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Ici, dans la Bible anglaise, est écrit « Regardez ». Et le mot « regarder » est un ordre. Notre Seigneur n'est pas monté avec des cris de lamentation et des pleurs. Non, la douleur était à Gethsémané. Les blâmes étaient à Gethsémané. Mais avec sa résurrection, c'était le triomphe divin lié à la victoire sur la mort, l'enfer et le diable. Notre Seigneur est monté avec des cris de triomphe. Il a même écrit au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette et il reviendra de cette manière. La Bible dit tel qu'il est monté, c'est comme ça qu'il reviendra. Comme ça, avec trompette et cri de triomphe. C'est comme ça qu'il reviendra, corporellement aussi. Loué soit le Seigneur, son merveilleux nom. Tout est écrit ici. Tel qu'il est monté, c'est comme ça qu'il reviendra. Mais il faut que cela nous soit révélé par la grâce de Dieu, par Dieu lui-même. Répétons encore une fois, et cela toujours de nouveau. Si le Seigneur appelle quelqu'un et lui dit directement, je t'enverrai, audiblement il lui dit, je t'enverrai de ville en ville pour prêcher ma parole, alors nous sommes dans la même position comme Paul dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15, où il pouvait dire, ça, je vous le dis en tant qu'une parole du Seigneur. Ce n'était pas son opinion, mais comme une parole du Seigneur. Donc, il fallait que ce qu'il disait, ce que Paul disait, il fallait que cela soit déjà écrit dans les Écritures en tant que parole du Seigneur. C'est comme ça qu'il pouvait dire. Et nous venons de lire cela dans Psaume 47, verset 6. C'est comme ça que ce que Paul pouvait dire dans 1 Thessaloniciens 4, ça nous vous le disons. 5. Verset 5, pardon. Psaume 47, c'est le verset 5. En français, c'est le verset 5, pardon. Verset 5, psaume 47, verset 5. Et nous le disons avec toute la clarté. Toutes les interprétations des Écritures et aussi sur ce que frère Branham a dit, ils interprètent, ils infiltrent leurs propres pensées, leurs propres opinions et interprétations dans la citation. Et ils font dire frère Branham des choses qu'il n'a pas dit. Non. Nous allons rester avec la prédication pure de la parole de Dieu telle que Dieu nous l'a confiée. Ceux qui sont nés de la semence incorruptible de la parole de Dieu pour une espérance vivante auront accès à Dieu, à la compréhension de sa parole. Et ça, c'est la révélation que Dieu, par sa grâce, nous a accordée. Notre Seigneur reviendra avec le cri de victoire, le cri de triomphe. Lui, le victorieux de Golgotha. Golgotha a servi à quelque chose. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Loué soit Dieu qui nous a accordé la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est le plein évangile. Alléluia! Dans Ésaïe, chapitre 44, au verset 3, Dieu a donné la promesse. Peut-être que nous lisons cela dans Ésaïe, chapitre 44. Ici, Dieu a donné la promesse de déverser son esprit sur toute chair. Ésaïe 44, verset 3. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. En allemand, tel que je répands des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée, c'est ainsi que je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Donc, c'est une comparaison. Nous sommes la semence de Dieu. la race de Dieu. C'est pour cette raison que nous croyons les promesses de Dieu. Et nous avons un accès direct, un droit direct à ce que l'Esprit de Dieu, comme des ruisseaux, comme une pluie puissante, se déverse, soit déversée, soit répandue sur nous. Car ça, c'est la promesse. On m'a demandé, est-ce qu'il y aura aussi un bruit tumultueux à entendre comme le jour de la Pentecôte? Je ne sais pas comment et tout ce qui va se passer. Je sais une seule chose, que cela va s'accomplir, car Dieu l'a dit. Et c'est Dieu seul qui sait. Nous n'avons pas besoin de nous représenter l'expérience. Si c'était nous-mêmes qui devrions le produire, nous pourrions réfléchir à comment ça devrait se passer. Mais nous, c'est Dieu qui doit le faire. Donc nous lui laissons tout. Comment est-ce qu'il doit le faire? Ce qui est important, c'est que sans imagination, nous ayons soif et faim. Soif, comme on l'a lu dans le psaume 42, soif du Dieu vivant, comme une biche a soif. Et que nous puissions dire comme Jacob, Seigneur, je ne te laisse pas, si ce n'est que tu me bénisses. Car la puissance du Saint-Esprit doit être en nous pour que notre corps mortel soit transformé dans un corps incorruptible par la puissance du Saint-Esprit. Dans Joël chapitre 3, cette parole connue: en ces jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. En français, je crois que c'est verset, chapitre 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Il y en a qui ont des songes, qui ont des songes et ils les racontent aux autres. Je ne veux rien avoir à faire avec des songes qu'on doit encore interpréter. Et dans l'Ancien Testament, par exemple, il n'avait pas seulement un songe, mais dans le songe, il lui a été dit ce qu'il devait faire. Même dans le Nouveau Testament, que ce soit Daniel, que ce soit tous, ils n'avaient pas besoin encore d'interpréter. Ils avaient reçu eux-mêmes. Mais aujourd'hui, les gens ont un songe, ils interprètent leur songe, ou bien alors ils le racontent aux autres, etc. Et par des songes, le diable a beaucoup confondu les pensées des croyants. Il y en a qui vivent seulement dans les songes. Un songe qu'on a encore besoin d'interpréter. Non, on n'en a pas besoin. Si Dieu nous parle par des songes, il nous accordera aussi la révélation. Il nous parle déjà. Déjà, la parole de Dieu dans le songe est claire. Dans Zacharie, le chapitre 10, le premier verset, Zacharie, chapitre 10, le premier verset. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Pas seulement la pluie, mais la pluie en abondance est écrite ici. Et nous remercions Dieu. Ce sont des promesses. Et nous les croyons de tout notre cœur. Et le Seigneur lui-même veille sur sa parole pour l'accomplir. Dans Matthieu, chapitre 3, verset 11, Jean a dit à haute voix, Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, besoin des deux. Du baptême d'eau et du baptême Saint-Esprit. Les deux sont un baptême. Et tel que naturellement, nous sommes baptisés, immergés dans l'eau. C'est ainsi que nous devons être immergés dans la plénitude de l'Esprit. Ainsi nous ne sommes plus à voir et à entendre, mais seulement tel que l'Esprit nous donne de s'exprimer et peut agir par nous et en nous, alors la propre vie a arrêté, a cessé complètement, la propre vie. Et c'est la vie de Jésus-Christ qui par nous et en nous, par la grâce de Dieu, qui est manifestée. Une question. Est-ce que nous sommes croyants bibliques? Alors si nous sommes croyants bibliques, nous attendons les dernières promesses et leur accomplissement dans ce temps. Alors dites Amen. Cela, le monde entier devrait l'entendre. Les enfants de la promesse croient chaque parole de la promesse. Et nous avons l'appel à sortir que nous avons entendu. Nous avons le temps de préparation, nous avons le temps de séparation, et nous avons hier soir mis les points sur les i en insistant que tous les victimes, tous les sacrifices qui n'étaient pas apportés là où Dieu le voulait, c'est-à-dire au sacrificateur, à l'entrée de la tente d'assignation, ça a été de l'idolâtrie, même si c'était des sacrifices selon la loi, correctement apportés. Mais cela a été sacrifié à des démons, mais pas à Dieu. Oui, oui, Dieu a un plan avec Israël. Et il a aussi donné des instructions, des ordonnances à observer exactement. Et c'est exactement la même chose avec l'Église du Nouveau Testament. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Nous avons été appelés à sortir. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Ce ne sont pas tous, mais vous, mon peuple, là. Qu'est-ce que Dieu disait à Moïse? Parle et dis, laisse sortir mon peuple. Tous les autres pouvaient rester en Égypte où ils étaient. Mais son peuple, autrefois, a prêté l'oreille au message. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, ordonne l'Éternel, ne touchez à rien d'impur, alors je vous agréerai. Aucun mélange, ne permette aucun mélange, ne permette aucun compromis. Mais la prédication vraie et claire de la parole originale de Dieu, oui, tout le dessein du salut de notre Dieu, en lui le Dieu fidèle, tel qu'il nous l'a confié. Pourquoi est-ce que Paul, dans Actes des Apôtres, le chapitre 20, pouvait écrire et dire « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. » Lisez ses épîtres. Il n'a rien oublié. Il a touché tous les sujets sur les fruits, sur les dons de l'Esprit. Chaque sujet, sur les ministères, sur les anciens, sur les diacres, tout sujet, sur l'habillement des sœurs, sur le comportement des hommes, il n'a rien oublié. Et la même parole tel que Paul l'a enseigné. Si Paul était là aujourd'hui, il prêcherait la même chose, il écrirait la même chose. Tout ce qu'il a prêché autrefois et tout ce qu'il a écrit autrefois, cela nous concerne encore. Cela concerne aussi frère Branham. Cet homme de Dieu, avec ce ministère extraordinaire, aucun prophète, aucun apôtre avait un ministère semblable tel que frère Branham l'avait. Mais il était qu'un vase. Il était qu'un vase. Il avait un père terrestre, une mère aussi. Combien de fois il parle de son papa et de son, oui, de son père aussi dans le domaine. Et comment est-ce que son père était dans le domaine naturel? Il n'a pas eu honte de parler de la vie naturelle, ordinaire, de son père. Et il y en a, ils veulent de frère Branham faire Dieu manifester dans la chair. Ils veulent le faire devenir le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dieu est Dieu et Jésus-Christ est l'unique manifestation visible de Dieu sur terre. Seulement lui pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais justement, à frère Branham, le 7 mai 66, il a été dit, 46, tel que à Moïse il a été donné deux signes, c'est ainsi qu'il sera donné deux signes. Moïse avait deux signes pour avoir la confiance du peuple d'Israël. Et Dieu le Seigneur disait, s'ils ne croient pas au premier signe, ils croiront au deuxième signe. Je voudrais dire la chose suivante. Dieu peut envoyer le plus grand des prophètes, mais si le peuple ne le croit pas, alors le message va passer auprès d'eux. Et c'est la grâce que le Seigneur nous a faite de ne pas honorer et vénérer un messager, mais de croire le message divin et d'être appelé à et d'être sorti de tout, de s'être séparé et de tout notre cœur remercier le Seigneur de ce que nous avons la grâce d'avoir part à ce que Dieu fait maintenant en accord avec sa parole. Dans Actes des Apôtres, le premier chapitre, au chapitre 5, au verset 5, pardon. Actes des Apôtres, chapitre 1, notre bien-aimé Seigneur a répété ce que Jean-Baptiste avait dit auparavant. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans peu de jours. Dans peu de jours. Donc ici, la promesse est répétée telle que de Jean, elle avait été prononcée sous l'inspiration du Saint-Esprit. Je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Nous avons besoin des deux. Nous avons besoin du baptême de feu pour que nous soyons purifiés. Nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit pour que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut. Sans le baptême du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas voir ni les dons, ni les fruits de l'Esprit être manifestés. Car notre Seigneur lui-même a dit dans Jean 15, « Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. » La vie qui est dans le cèpe se révèle dans les sarments. C'est ainsi que l'Église est le corps du Seigneur et est joint ensemble, constitué de plusieurs membres. Mais dans tous ces différents membres-là, la vie de la tête est manifestée et ils forment le corps du Seigneur. Et nous, et tous ensemble, nous portons la responsabilité devant le Seigneur. Encore une question. Bien-aimés frères et sœurs, êtes-vous de cette opinion-là que Dieu tout ce qu'il a promis de faire, il le fera par frère Franck ou bien par les frères qui ici prêchent ou bien dans d'autres endroits? Ou bien est-ce que vous avez compris que vous devez vous-même aussi prendre la responsabilité devant le Seigneur, en tant que corps du Seigneur, en tant que l'Église des premiers-nés? Dieu va se manifester par chacun de nous. Nous ne sommes pas les seuls porteurs des promesses, nous les prédicateurs, mais tous nous portons les promesses de Dieu. Et tous nous voulons que les promesses de Dieu ne demeure pas seulement, mais qu'elle s'accomplisse. Seulement au moment, non pas seulement qu'elle soit valable aujourd'hui encore, mais qu'elle s'accomplisse. Seulement si ce qui s'est passé dans la chambre haute se répète. C'est-à-dire, les disciples étaient avec le Seigneur 40 jours ensemble. Il les a enseignés sur le royaume de Dieu. Il leur a dit tout et ensuite, il leur a ordonné d'enseigner à tous les peuples et de prêcher à tous les peuples et de leur enseigner à observer tout ce qu'il leur a dit. Et il leur dit encore, oui, de leur enseigner à observer tout ce qu'il leur a ordonné, d'observer tout ce qu'il a enseigné. Est-ce que le Seigneur, par exemple, Matthieu 28, Marc 16, Luc 24, Jean 20, il a parlé de tous ces chapitres avec eux. Il a révélé le nom. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que nous expérimentons maintenant? Qu'est-ce que nous voyons maintenant? Tel que autrefois, les disciples, ensuite les 120, avaient tous compris tout ce qui devait se passer auparavant. Ils l'ont expérimenté. Ils ont reçu l'intelligence pour l'accomplissement des Écritures. C'est ainsi que maintenant, nous expérimentons la même chose. Nous sommes introduits. Le Seigneur parle avec nous des choses du royaume de Dieu. Nous sommes introduits dans tous les mystères, dans toute la vérité. Et je crois que vous tous, de la Tchèque, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovaquie, de l'Hongrie, de la Roumanie. Vous ne venez pas seulement ici pour entendre un homme. Non. Vous venez tous et tous. Nous sommes ici. C'est pour écouter les paroles de Dieu et pour recevoir l'enseignement commun qui est sorti de Dieu. Car c'est ainsi que c'est écrit. L'enseignement sortira, ou bien la loi sortira de la montagne de Sion. L'enseignement, la parole et la loi, ou bien l'enseignement de la montagne de Sion et de Jérusalem. Et nous sommes revenus à cette parole-là qui est sortie de Jérusalem. Nous sommes revenus à cet enseignement. Un seul Seigneur, un seul foi, un seul baptême. Et un seul baptême d'esprit et de feu. Un seul accomplissement de ce que nous avons lu déjà. Le Seigneur, c'est pour cette raison que maintenant nous devons participer prendre part à un seul enseignement. Et l'enseignement de Dieu. Il a accordé la pluie de l'avant-saison. Il accordera la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'avant-saison vient avant l'ensemencement. S'il n'y a pas de pluie sur la terre desséchée, on ne peut même pas semer. La semence va sécher, va dessécher, va sécher. Il faut que on sème quand la pluie de la vent-saison est tombée et avant la moisson. Et ça, c'est la chose étrange. Un tonnerre dans la pluie de la vent-saison n'est pas à entendre, mais dans la pluie de la première saison, dans la pluie de l'arrière-saison, pendant la pluie de la moisson, là, on entend la pluie est accompagnée de tonnerre et d'éclairs. C'est étrange. Dieu est en train de faire ces choses. Nous sommes presque à la fin de tout l'enseignement que Dieu nous a accordé dans ce temps. Dites-moi, de quoi est-ce que nous n'avons pas encore parlé? Dites-moi, de quoi est-ce qu'on n'a pas encore enseigné? Dites-moi, s'il vous plaît, dites-moi ce que Dieu a oublié de nous dire. Dites-moi, en commençant de la chute de l'homme, de ce qui s'est passé au jardin d'Éden, tout le dessein du salut de notre Dieu n'a pas seulement été révélé, mais et exposé, mais comme jamais, mais il a été aussi exposé. Jamais auparavant il y a eu une telle prédication du plein salut révélé par le Saint-Esprit lui-même, comme dans notre temps, comme Pierre pouvait dire. Ils ont prêché la parole par le Saint-Esprit qui vient du haut des cieux. Et Dieu ne nous a pas laissé à l'entrée de la terre d'assignation. Il ne nous a pas laissé au parvis. Il ne nous a pas laissé seulement dans le sanctuaire, là où il y avait les pains d'assignation, de proposition, et là où le chandelier était, et là où l'autel est. Nous avons, par la grâce de Dieu, expérimenté tout cela. Dieu nous prend jusqu'à même dans la tente d'assignation, dans le lieu très saint, là où il y a sa gloire. Et nous avons reçu, Moïse avait reçu l'ordre de faire le chandelier. Et qu'est-ce qui s'était passé? L'homme qui avait été déterminé à le faire a pris une masse d'or, une pièce d'or. Donc, et c'est d'une seule pièce, d'un seul matériel, pas plusieurs qui ont été soudés ensemble. Donnez-moi un chandelier, est-ce que nous avons un chandelier ici? Non. Pas une unique fois, il y aurait quelque chose qui s'est mal passé. Toutes les sept conduits, tout le chandelier vient d'une seule pièce. Fondu et fait. Et l'église, toute l'église est d'un seul matériel. Il n'y a rien qui est soudé ensemble. C'est écrit comme ça dans Zacharie, déjà chapitre 4. Ce ne sont pas des choses qui sont soudées ensemble, non. Où l'homme de Dieu voit le chandelier en or. Il voit le réservoir d'huile au-dessus du chandelier. Il voit les sept conduits qui descendent dans les sept conduits du chandelier. Il y a une relation entre le réservoir et le chandelier. Et le conduit d'huile est dans, pour que l'huile aille dans le chandelier. Nous sommes, comme les Américains disent, nous ne sommes pas de catchwork. Nous ne sommes pas comme ça, des choses qui sont soudées ensemble. Non, nous sommes le corps du Seigneur, l'Église du Dieu vivant. Nous sommes tous d'un même matériel. Né d'en haut par le Saint-Esprit pour une espérance vivante en tant que des gens qui seront pour toujours auprès du Seigneur dans la gloire, tel que nous l'avons entendu dans la parole d'introduction. Le Seigneur est allé pour nous préparer une place. Ensuite, vous pensez qu'il va revenir prendre une église méthodiste, une église baptiste, une église pentecôtiste? Vous pensez qu'il va prendre de tous ces centaines d'églises-là, il va venir prendre chacune? Non, il revient prendre son église qu'il a rachetée à Golgotha, pour laquelle il l'a payé le prix, de laquelle il dit dans Matthieu 16, « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prouveront pas sur elle. » Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'imagination, c'est la grâce que Dieu nous a accordée. Et nous reconnaissons en cela, tel que c'est écrit, celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Tous les autres passent sans s'arrêter à ces choses. Ils ne s'inquiètent même pas. Ils ne s'inquiètent même pas. Ils ne se soucient même pas de ce que l'Esprit a à dire à l'Église maintenant. Qu'est-ce qu'ils savent concernant les promesses? Qu'est-ce qu'elles signifient pour eux? La parole révélée, ça ne signifie rien pour eux. Ils apportent leurs victimes, leurs sacrifices là où ils veulent, à l'extérieur, là dans les champs, ici et là, et tel que nous l'avons considéré hier, de Lévitique chapitre 14, de Lévitique chapitre 17, que tous ces victimes qui étaient apportées dans les champs, etc., partout où les gens le voulaient, étaient de l'idolâtrie, étaient apportées, sacrifiées à des démons. Si cela n'était pas apporté selon l'ordre divin, là où Dieu l'avait ordonné, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons vu dernièrement en Israël, il y avait eu des hommes qui sont allés dans le Jourdain. Imaginez-vous, ils se sont eux-mêmes baptisés. Ils sont allés dans le Jourdain et ils se sont lui-même, sans que quelqu'un le baptise, lui-même, il s'est lui-même immergé dans l'eau, il est descendu dans l'eau et puis il est ressorti lui-même. Et il est sorti, il a continué son voyage. Mais ils peuvent ensuite dire, je suis baptisé au Jourdain. Non, c'est un pécheur qui est rentré dans l'eau et qui était sec et un pécheur est sorti mouillé, c'est tout. Le baptême biblique est tel qu'il nous est décrit dans Actes des Apôtres chapitre 8. Les deux, Philippe et l'Éthiopien, sont entrés dans l'eau et là où il y avait beaucoup d'eau, les deux sont entrés dans l'eau. Et ensuite, Philippe a baptisé l'Éthiopien et lui aussi, il était dans l'eau, les deux. Et Jean-Baptiste a aussi baptisé notre Seigneur. Et encore tous les autres baptêmes qui ont lieu dans la forme trinitaire, tous peuvent ensuite dire qu'ils ont été baptisés. Oui, nous avons été baptisés au lac de Génézareth, ou bien alors nous sommes baptisés au Jourdain, etc. Non, ce n'est rien d'autre que de la religion, de la tromperie religieuse dans toutes ces religions. Et seulement celui qui est né de Dieu entend les paroles de Dieu et accepte l'ordre divin et sonde les Écritures, comme c'est écrit dans les Actes des Apôtres de nos frères et sœurs de Béré. Et la Bible dit qu'ils sondaient les Écritures tous les jours pour savoir si cela était ainsi. Donc, ils sondaient tous les jours. À chaque prédication, ils ouvraient la Bible. Pendant que le prédicateur prêchait, ils avaient leur Bible et ils sondaient les Écritures, s'il vous plaît. Pas seulement comme ça, répéter des versets bibliques, mais d'aller d'une Écriture à une autre, et ceux qui écoutent la prédication ont leur Bible sur eux et ils font comme les frères et sœurs de Bérée, ils sont des Écritures pour voir si ce qu'on leur dit est exact. Ils étaient nobles, dit Pierre et Paul. Dieu nous a accordé la grâce d'avoir notre Bible avec nous dans l'Église. Et je voudrais en fait savoir combien veulent arrêter d'être désobéissants et d'arrêter de toutes ces choses et qui veut se laisser baptiser dans le Seigneur Jésus-Christ, de faire cesser les choses qui ne sont pas claires. Dites Amen. Êtes-vous prêts à observer la parole? Dites Amen. Et tous ceux qui ne sont pas encore baptisés bibliquement et qui sont devenus croyants ont la possibilité de se laisser baptiser. C'est encore le temps de la grâce. Le Seigneur appelle encore. Et si aujourd'hui, il y avait des gens qui veulent se laisser baptiser, on peut les baptiser. De la même manière, on peut aussi dire qu'on peut le faire aussi la prochaine fois. Ce qui est important, c'est que seulement des croyants soient baptisés. Selon la parole de l'Écriture, des gens qui sont devenus croyants. Et la Bible dit, celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Et tous ceux qui croient sont ceux qui ont accepté sa parole. Car ceux qui acceptèrent sa parole se laissaient baptiser. Ensuite, il est décrit de se dépouiller du vieil homme, de se revêtir du nouvel homme qui est créé selon la justice et la sainteté de Dieu. En cet endroit, nous avons, par la grâce de Dieu, vu plusieurs choses. Dans cette pièce de prière, il y a des frères qui étaient venus avec de longs cheveux et ici qui sont devenus croyants après avoir écouté la prédication, ils voulaient se laisser baptiser. Alors, on les a pris dans la pièce de prédicateur, les frères, on leur a d'abord coupé les cheveux. Oui, on avait une machine électrique, on leur a carrément coupé les cheveux avant le baptême. On ne va pas ici baptiser des hippies. Et dans cet endroit, il faut qu'il y ait de la crainte qui existe. Il faut que le modèle biblique soit mis en pratique. Des gens qui viennent avec des cheveux bizarres, on va d'abord leur couper les cheveux s'ils veulent se laisser baptiser. Et ne m'en voulez pas si je répète cela ainsi. Même si quelqu'un vient avec des boucles d'oreilles, ou bien des bagues, ou bien tout ça de choses, il faut qu'avant le baptême d'aussi, quelqu'un veut témoigner devant les saints, qu'il croit à l'œuvre accomplie de la rédemption. Il faut que son témoignage soit vraiment vrai. On lui enlève les bagues et les boucles d'oreilles et tout. Il faut qu'elles veulent ou pas. Elles doivent. Parce que vous savez que boucles d'oreilles viennent de l'esclavage. Et celui qui, d'une manière ou d'une autre, est encore esclave, c'est un esprit qui est derrière, qui vient d'abord qu'on puisse prier pour lui. Priez pour lui. Selon la parole de l'Écriture, celui que le Fils rend libre, il est réellement libre. Libre de tous ces esprits, de tous ces démons, de tous cet esclavage. Et je vais vous dire aussi pourquoi. Parce que dans Romains, le chapitre 6, il est écrit que nous sommes crucifiés avec Christ, et nous sommes ensevelis avec lui, et que c'est par le baptême ensuite qu'il est enseveli, donc crucifié et mort avec Christ. Ensuite, seulement celui qui est lui-même réellement mort et crucifié avec Christ, peut ensuite se laisser ensevelir avec Christ. pour ensuite seulement celui qui est vraiment mort et crucifié avec Christ peut ensuite ressusciter avec lui pour marcher en nouveauté de vie. C'est pas possible. On ne peut pas vivre dans un mélange de vieille vie et de nouvelle vie. On ne peut pas en même temps vivre, être en train de revêtir le vieil homme, revêtir le vieil homme, revêtir le vieil homme. D'abord, il est écrit de se dépouiller du vieil homme et ensuite de revêtir le nouvel homme pour ne pas non plus rester nu. La nouvelle naissance n'est pas une amélioration du vieil homme. La nouvelle naissance est une naissance de la parole et de l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que nous le souhaitons à tous ceux qui s'ajoutent parmi nous. Le Seigneur ne rejette personne qui vient à lui. Il appelle encore aujourd'hui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos, du rafraîchissement pour vos âmes. Il appelle encore aujourd'hui tous ce qui est écrit dans Jean 3 et lui-même, il a dit, si ce n'est que quelqu'un naisse de nouveau, sinon il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il ne peut ni entrer ni le voir. Ainsi, nous chanterons, nous pourrons chanter tout nouveau, tout nouveau. Nous voulons faire confiance à Dieu et de tout notre cœur croire que par la parole, par le sang et par l'esprit, il crée tout nouveau en nous et que nous avons plus rien à voir avec le vieil homme et ses œuvres et que jusqu'à dans notre âme, dans notre cœur, jusqu'à dans l'âme, nous sommes régénérés, nés de nouveau pour une espérance vivante. Particulièrement hier et aujourd'hui, nous avons eu à toucher différents sujets qui touchent Gethsémané, Bethléem, Gethsémané, Golgotha, la résurrection, la montée au ciel de notre Seigneur et l'effusion du Saint-Esprit, tout ce qui est lié à ces choses. Je voudrais venir à la fin et dire encore, et lire dans Jacques, le chapitre 5, verset 7.
So harret denn standhaft aus, liebe Brüder, bis...
Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Je vous demande un moment, s'il vous plaît. Soyez reconnaissants. Dieu, il y a 2000 années d'ici, a inspiré les apôtres pour qu'ils puisse écrire ce qui est prêché aujourd'hui et ce qui est adressé à nous aujourd'hui. Ils ont écrit autrefois ce que nous prêchons aujourd'hui. Lisons alors ici. Soyez donc patients, frères, jusqu'à le retour du Seigneur. Pensez à ce que le laboureur attend, le précieux fruit de la terre. Il nous est dit de penser au laboureur, de penser à ça. Et prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Notre frère Florent a lu la parole d'Hébreu. Chapitre 10. Notre frère Borg a lu la parole de Jean 14. Et nous avons tous les autres versets bibliques que nous avons eu à considérer. Bien-aimés frères et sœurs, une telle richesse en prédication de la parole, en enseignement biblique, n'a jamais existé sur terre. Ceci est le temps de Dieu. Le dernier appel, la préparation de l'Église, et nous avons la promesse, nous avons l'exhortation qui nous est dit de persévérer, de prendre patience jusqu'à l'avènement du Seigneur, jusqu'à que la pluie de l'avant et l'arrière-saison soit venue, et que le Seigneur récolte toute la moisson. Ils viennent de l'est, de l'ouest, ils viennent du nord et du sud. Et encore aujourd'hui, nous saluons tous ceux qui viennent des pays de l'Afrique, du continent de l'Afrique, de sa fin jusqu'à son commencement, de son commencement à sa fin. La Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Chine, le Pakistan, partout. Dieu a maintenant ouvert des portes dans la Mongolie, en Mongolie. J'avais vraiment cette région dans le cœur, très fort, que là-bas aussi nous trouvions une porte. Et d'abord, notre frère Lucran, maintenant, est là-bas et visite l'endroit pour créer des contacts et préparer des réunions. Dieu lui-même prend soin pour que s'accomplisse ce que le Seigneur lui-même a dit. Donc, c'est dans la région de la Mongolie, car il est écrit que cet évangile sera prêché à toutes les peuples. Et ensuite viendra la fin. Ceux que nous n'attendions pas à pied, nous les avons atteints en voiture. Je suis allé jusqu'à Rome, jusqu'en Pologne, partout ici en Europe en voiture. Si nous ne pouvons pas atteindre tout le monde ainsi en voiture, nous avons ensuite l'avion. Nous avons donc atteint les enfants de Dieu par l'avion. Et ceux qu'on n'a pas pu atteindre par l'avion, on les atteint maintenant par l'Internet, par l'Internet, et celui qui n'a pas encore d'appareil, nous allons leur acheter les appareils, leur payer les appareils. À tous les frères, ça n'a pas d'importance dans quel pays, de quelle ville ils viennent, nous allons leur acheter la possibilité de suivre en ligne, et nous allons payer pour que tous les frères, dans tous les endroits, dans tous les pays, puissent avoir la ligne pour avec nous et avec le Seigneur est en relation. Dieu nous a accordé beaucoup de grâce. Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Nous voulons être heureux et reconnaissants et lui donner la gloire. Lui qui a commencé son œuvre, il achève aussi pour le jour glorieux de son retour merveilleux. Disons encore une fois, lors de son retour, il revient, s'il vous plaît, pas avec un visage attristé. Il vient au milieu de cris de triomphe et de trompettes. Et nous allons le voir. Maranatha, notre Seigneur revient. Il revient. Que son nom soit glorifié. Amen. Nous voulons nous lever. Chantons ce chœur. Tout nouveau. Tout nouveau. Et je demande simplement, si particulièrement il y a des jeunes qui veulent venir devant et consacrer leur vie au Seigneur. Cela ne doit pas être ainsi, mais la nouvelle naissance est une obligation. Mais de venir devant, ce n'est pas une obligation, c'est votre décision. Mais la nouvelle naissance est une obligation. Vous pouvez croire là où vous êtes. Vous n'avez pas besoin de venir devant, mais si Cela, vous l'avez ainsi dans le cœur. Si vous l'aviez ainsi dans le cœur, nous serions prêts à prier pour vous. Tout nouveau. Tout nouveau. Croyez-vous tous de tout votre cœur? Alors dites Amen. Si aujourd'hui on doit baptiser d'eau, alors je demanderai que vous puissiez brièvement nous montrer vos mains pour savoir s'il y en a ici quelques-uns qui veulent se laisser baptiser. Il y en a encore. Il y en a, nous en voyons deux. 3, 4, 5, 6. Alors, venez devant, s'il vous plaît. Venez, s'il vous plaît, devant. Nous allons. Et ici, la pièce est à notre disposition. Nous sommes ici pour servir. Que Dieu vous bénisse. Venez devant. Oui, parlez-vous l'allemand? C'est bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oui, tout à l'heure, on va enlever les boucles d'oreilles ou bien déjà maintenant. Un frère doit t'aider. Tu peux le faire seul. Tu as besoin qu'on t'aide? Non. Tu veux tous, promettre à tous que tu le feras, enlever les boucles d'oreilles et tout ça? Ok. Oui, venez. Venez, nous sommes dans la présence de Dieu, hein, la présence du Seigneur. Et le baptême est un ordre du Seigneur d'aller dans le monde entier pour prêcher l'Évangile. Et tous ceux qui croient et se laissent baptiser, cette promesse est valable de recevoir le Saint-Esprit. Particulièrement, nous vous souhaitons à tous les bienvenus. Vous êtes sûrement un couple de la Roumanie. Oui, que Dieu vous bénisse. La Roumanie, le Seigneur, d'une manière particulière, a béni. Nous voyons tous, notre sœur est encore habillée comme elle est venue, mais elle ne va pas rester comme ça. Nous avons assez de robes ici et de jupes. Elle peut enlever son pantalon et on lui donne une robe ou bien une jupe. On veut ici dire la vérité. Et ça aussi, frère Branham l'a dit, que des hommes ne doivent pas porter des vêtements de femmes tels que Dieu l'a ordonné à Moïse. Que les femmes ne doivent pas porter des vêtements d'hommes et des hommes ne doivent pas porter des vêtements que l'homme peut porter. Par exemple, Dieu, le Seigneur, par Paul, dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, a dit que si un homme porte de longs cheveux, c'est une malédiction. C'est une abomination. Mais si une femme porte de longs cheveux, pour elle, c'est un honneur pour elle, car les longs cheveux lui ont été donnés comme voile. Bien-aimée sœur, laisse pousser tes cheveux. Le Seigneur t'accordera sa grâce. C'est merveilleux de ce que nous pouvons ainsi venir au Seigneur tel que nous le sommes. Jusqu'à aujourd'hui encore, le Seigneur n'a rejeté personne qui est venu à lui et il ne le fera pas non plus dans tout le futur. Maintenant, nous demandons au frère Schmitt de venir, qui prie. Frère Schmitt n'est pas là. Personne qui veut prier pour nous, avec nous, qui veut prier. Où est le frère Alfred Borg? Qui veut prier? Bon, nous allons prier. Bien-aimé Seigneur, je t'apporte, oui, nous t'apportons tous, tous ceux qui sont venus devant, nos frères et nos sœurs. Nous te les apportons, nous te les consacrons. Agrée-les au Seigneur, car c'est ainsi que c'est écrit, c'est ainsi que tu l'as dit, celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Tu agrées tous, tu les agrées tels qu'ils sont, tels qu'ils viennent à toi, et tu accordes la transformation de l'âme, la régénération de l'âme. Tu transformes toutes choses, tu rends toutes choses nouvelles. Tu accordes ta grâce. Nous te consacrons tous ceux qui sont venus devant pour se laisser baptiser. Nous te les consacrons pour ce temps et pour l'éternité. Que la bénédiction du Dieu vivant se repose sur vous dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Amen.
Amen.